Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
Le Pays de Loire. Sa seule évocation stimule l'appétit et inspire la douceur de vivre. Mais dans la belle vallée de Nantes à Ancenis, les souvenirs historiques et littéraires y ajoutent comme un subtil parfum. Ici, Liré et la silhouette de Joachim du Bellay. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je l'enclos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Plus souriant les souvenirs attachés au château de la Seilleraie. Madame de Sévigné devait y dater de nombreuses lettres. Au pied du château, les vignes et le marais. Et ceci nous ramène évidemment à la gastronomie, car le marais est le royaume des anguilles, des grenouilles et du gibier d'eau. Et tout au long de la Loire, il n'est auberge ou restaurant qui ne se vante de posséder la seule vraie recette des cuisses de grenouilles à la sauce poulette ou des anguilles grillées à la sauce tartare.
Vous l'aurez compris, direction Nantes, ce midi, devenu en l'espace d'une décennie et non en 50 ans, comme le rappelait cette archive INA de 1968. Devenu en l'espace d'une décennie, une destination gourmande à part entière, avec des produits locaux de grande qualité et à des prix plus qu'attrayants. La cité ligérienne est portée par une nouvelle génération de cuisiniers et de cuisinières, comme les cadets de Charles Bernabé, les Chants d'Avril de Christophe et Véronique François, Rosa de Jean-François Pantaléon, Jaléo de Albert Rirera, salué par le guide des tables de Nantes, ou Sarah Mingui avec son bistrot Vacarme et son tout jeune restaurant Freya niché sur un toit. Et puis, bien sûr, il y a notre invité installé depuis plus de 12 ans dans Nantes, présenté comme un grand de demain par le Goemio en 2014 et qui, de fait, en moins de 10 ans lui aussi, a gravi les échelons pour devenir un incontournable de la ville de la gastronomie nantaise, sacré 3 tocs au Goemio en 2018 et récompensé d'une étoile Michelin en 2019. Ludovic Pouzelgue, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Paris pour venir nous voir. Vous êtes le chef du restaurant nantais Lulu Rouget et l'auteur d'un livre qui a paru à l'automne 2023 intitulé « Un cuisinier en ville ». C'est donc vous, le cuisinier en ville. Vous avez reconnu dans cette archive INA d'une émission de télévision qui s'appelait « Gastronomie régionale » en 1968, votre Nantes avec les anguilles, avec les gibiers d'eau, avec les cuisses de grenouille, où ça a beaucoup changé?
Ah ben, ça a changé, forcément, mais il y a une petite part de ça quand même. c'est des produits surtout du terroir, et puis aussi une cuisine qui a évolué, c'est sûr.
On vous avait reçu en 2018, plus exactement, c'est nous qui avions fait le voyage jusqu'à Nantes en 2018. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018, à la fois à Nantes, en termes de cuisine, et dans votre cuisine à vous?
À Nantes, comme vous l'avez dit, l'arrivée de jeunes cuisiniers, d'un peu moins jeunes, mais en tout cas une nouvelle vague, on va dire. Mais il y avait quand même déjà un patrimoine, mais c'est vrai qu'il y avait besoin de peut-être d'un petit peu de renouveau. Et puis, dans ma cuisine, je sais pas, un peu plus de sagesse.
De sagesse déjà?
Écoutez, au début, vous savez, les premières années, quand on cuisine chez soi, on essaye de trouver sa signature. Et puis c'est pas facile. On a aussi le poids des maisons dans lesquelles on est passé. Alors c'est pas un poids qui est très dur à porter, mais il faut s'en détacher en fait. Et le temps passe. Et puis le changement de lieu aussi a fait que j'ai en tout cas l'impression d'avoir mûri dans ma cuisine.
Vous, en l'occurrence, quand vous dites le poids des maîtres chez qui vous êtes passé, il s'agit de Jean-Yves Guéot et il s'agit de Michel Troisgros. L'un est à Nantes, l'autre était à Roanne.
De l'autre côté de la Loire.
Exactement. En quoi ont-ils été vos maîtres? Qu'est-ce que vous avez appris chez eux?
Chez Jean-Yves Guéot, que je salue, j'ai appris vraiment le produit. Il revenait du marché, ça m'a vraiment marqué. Une maison de famille et puis des produits top, des poissons de la criée qui arrivaient, là, raides comme des piquets, des légumes. Enfin voilà, un amoureux de produits. Et puis je dis toujours qu'il m'a dégrossi en fait dans ma cuisine, enfin dans ce que j'apprenais. Et puis ensuite Michel Troisgros, bah c'est autre chose. C'est déjà une grande dynastie, la famille Troisgros. Et puis de la poésie, beaucoup de poésie dans la cuisine. Et puis la rigueur d'un 3 étoiles Michelin, la perfection, même si elle n'existe pas, en tout cas, d'essayer de s'y rapprocher le plus possible. Et cet grand amour pour l'acidité qui m'a plus quitté et que j'ai. Et voilà, et ça, je m'en détache pas.
Qu'on retrouve dans votre cuisine.
Oui.
Le changement depuis 2018, c'est aussi donc que vous avez été récompensé d'une étoile Michelin en 2019. Ça change quoi ?
Ça change inévitablement le commerce, et ça c'est une évidence. Après on pense qu'on veut du Michelin, mais en tout cas quand l'étoile arrive, vous êtes propulsé sur le devant de la scène. En plus moi quand j'ai eu l'étoile, il n'y avait pas eu d'étoile à Nantes depuis plus de 10 ans. Jean-Yves et l'Atlantide l'avaient depuis longtemps, mais en fait je suis arrivé, j'étais un petit peu le genou derrière lui, et donc j'ai pu profiter pleinement de ça. Donc en plus d'avoir l'étoile, d'être seul entre guillemets à Nantes, nouvelle étoilée. En plus, c'était juste avant le Covid, donc il n'y avait pas tous ces soucis. Après, les autres qui ont été étoilés derrière moi, malheureusement, ils sont tombés en période Covid et ils n'ont pas pu profiter pleinement de ça. Donc la première année, bah, c'est du commerce en plus. Et puis bah, forcément, ça déclenche des choses, des clients qui viennent chez nous, des touristes qui venaient pas avant, des émissions, de la presse. Enfin voilà, forcément, ça a changé ça en fait.
Nantes, c'est votre ville ?
Oui, je suis nantais. Je suis né à Nantes.
Un pur nantais ?
Oui, un petit beurre.
Et qu'est-ce que vous diriez, exactement ? Qu'est-ce que vous diriez des spécificités nantaises ? Je me souviens qu'on avait dit, quand on était venu en 2018, que Nantes, c'était un carrefour gastronomique. On y trouvait absolument tout, tous les produits. Ouais. C'était une très, très grande diversité, une très, très grande richesse, voire que Nantes allait devenir la capitale européenne de l'alimentation. C'était d'ailleurs le titre de l'émission en 2018, comme une sorte de laboratoire de la cuisine de demain. Alors, est-ce qu'on est dans demain ?
Alors, je sais pas si c'est le laboratoire de la cuisine de demain, mais ce que je sais, en tout cas, c'est que on est au carrefour, effectivement, de produits d'exception. On a les premières criées à 45-50 minutes. On a un maraîchage de folie à 15-20 minutes. Des éleveurs. En plus, on est quand même à 2 heures de Paris, donc c'est pas non plus le bout du monde en train. Donc en fait, pour un cuisinier passionné de produits, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit. Alors, je suis chauvin un petit peu aussi, donc forcément. Mais quand vous avez comme ça ce que vous offre la mer, ce que vous offre la terre, ce que vous offre aussi la Loire et les lacs, je veux dire, la boucle est bouclée, c'est sûr.
Écoutez ce qu'en disait Richard Bosset, chargé de la promotion culinaire du Voyage à Nantes. On est dans les bonnes choses du 7 octobre 2018.
On parle beaucoup en ce moment de manger local, et justement là on s'est dit qu'on allait démontrer de façon conviviale et savoureuse que manger local en Pays de la Loire et à Nantes, c'est assez facile. On a la chance d'avoir une diversité de produits qui est assez exceptionnelle, entre les produits de la mer, les légumes, l'élevage, les produits laitiers, enfin bon, il y a à peu près de tout autour de nous. On est au sud de la Bretagne, au nord des Charentes, au bout de la Loire, aux portes de l'océan. Et puis, c'est une histoire du maraîchage qui est fort à Nantes et sans doute largement liée justement à la Loire, avec le sable dont bénéficient les maraîchers. Et c'est ce qui rejoint aussi l'existence et la création du Nantes Food Forum. C'est qu'au-delà de la gastronomie et ses produits, il y a tout un écosystème à Nantes sur la recherche, sur l'agroalimentaire, sur la production, et même dans la société civile, qui réfléchit à ces questions d'alimentation. Déjà parce que Nantes a depuis longtemps a travaillé ces questions d'agroalimentaire à l'époque où c'était un port très florissant, donc voilà, et le maraîchage de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a cet historique de penser l'alimentation par rapport à des contraintes qui étaient de différentes époques, mais voilà. Et finalement, on s'inscrit dans cette continuité aujourd'hui, mais avec d'autres enjeux, des enjeux plutôt de santé, d'environnement, mais finalement la réflexion reste la même. Ça va au-delà de la gastronomie, ce qu'on raconte, c'est effectivement ce lien aussi aux produits et aux producteurs. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse tous, c'est justement ce que les chefs vont en faire et qu'on va découvrir dans les restaurants nantais.
C'est un peu l'aller-retour entre la cuisine et les producteurs et les productrices locaux. Ludovic Pouzel, que raconte Richard Bosset là dans ce son tiré de Des Bonnes Choses. Parce que dans votre livre Un cuisinier en ville, vous rendez vraiment hommage, non seulement on parle de votre cuisine, c'est vous, c'est un portrait de votre cuisine et de votre restaurant, mais vous rendez aussi hommage aux personnes, aux fournisseurs avec qui vous travaillez. Il y a beaucoup de producteurs et de productrices dans votre livre. La région fourmille, on l'a entendu, de fournisseurs de qualité. Vous en donnez d'ailleurs la liste sur votre site. Oui. Quand on va sur le site de Lulu Rouget, votre restaurant, vous donnez le nom de chaque fournisseur. Est-ce que on retrouve ce nom sur la carte de votre restaurant?
Ben, en fait, nous on a pas de carte, on travaille sur un menu confiance, mais mes équipes en salle connaissent la provenance de tous les produits et n'hésitent pas vraiment à dire d'où viennent les produits de tel producteur, de tel fournisseur, de voilà. Donc on est très très transparent. Et puis ben, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans le livre, c'est aussi grâce à eux. Le livre, il est aussi pour eux. Vous avez des gens, vous avez un pêcheur du lac qui se lève à 4-5 heures. Alors quand c'est l'été, c'est sympa, hein, mais quand vous êtes en plein hiver et puis qu'il fait 3 degrés et vous avez de l'eau gelée dans les bottes, c'est pas le top, et ils nous les ramènent, les écrevisses. Voilà, quand il pleut, le maraîcher est à quatre pattes, voilà, que les bâches s'envolent, c'est pas drôle non plus. Donc on est là, on met tout ça en avant, et moi, j'ai lié depuis 12 ans aussi des relations amicales avec certains producteurs, et on parle pas que de produits, on parle de la vie aussi.
Par exemple, la ferme des Sept Chemins, ils sont trois à la tête de la ferme Sept Chemins. Ils produisent du beurre et du gouël. Il faut évidemment nous rappeler ce qu'est le gouël.
Alors, c'est le premier lait issu de la traite de la Bretonne pinoire. Donc, en fait, vous avez le lait qui est très riche en vitamines. Et ensuite, il est emprésuré en fait, avec des ferments lactiques naturels. Et il y a une toute petite cuisson, voilà. Et puis, ça fait ce gouël, voilà, à mi-chemin entre la crème, un yaourt, enfin voilà, c'est un peu hybride, et surtout ce que moi j'adore, c'est cette acidité incroyable.
Vous en faites quoi, vous, du gouël?
Alors nous, on a une recette un peu typique, on la colle légèrement avec une gélatine naturelle, et ça fait un peu comme un tofu en fait. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil au Japon, un pays que j'adore, et dessus on met des œufs de truite. Voilà, donc on a cette texture, on a cette acidité, on a les œufs de truite qui pètent un peu dans la bouche, là, c'est top, ça.
On va évidemment plonger dans votre assiette, hein, après-midi et quart avec vous, Ludovic Pouzelgue. Mais juste un mot sur votre restaurant, parce qu'on a très envie d'aller voir à quoi il ressemble, votre restaurant. Donc, est-ce que vous nous prendriez par la main pour nous emmener dans ce... Je crois que c'est un cube de verre avec du béton, du bois, un peu style loft industriel.
Alors, oui. Alors, c'est vrai que de prime abord, c'est pas... ça peut faire peur. On est dans le quartier de la Création à Nantes. Vous avez cette espèce de...
quartier des machines de Lille.
Oui, voilà. Juste à côté de notre copain l'éléphant, là, qui est tout en bois. Et donc, vous avez une tour de 8 étages. Et au pied de cette tour, alors pas en dessous, hein, mais au pied un petit peu décalé, vous avez le restaurant Lulu Rouget. Et là, effectivement, un cube avec des vitrines tout autour. Et puis, donc c'est un immeuble d'architecte. Et puis, quand vous rentrez dedans, bah, effectivement, on a voulu apporter beaucoup de chaleur par les matériaux. Donc, on va retrouver du bois avec le parquet. On va retrouver du métal. On va retrouver du cuir. Voilà, j'avais vraiment envie de créer cette atmosphère chaleureuse et conviviale, malgré qu'on soit dans un quartier comme ça qui est neuf.
Et au centre, alors cette fois c'est au centre de la salle,
ouais.
Une cave à vin,
ouais, une cave à vin
transparente.
Oui, parce que bon, je suis passionné de vin en plus, et j'avais envie comme ça d'un élément iconique. La cellule était faite de telle façon qu'elle faisait un peu comme un Z. Et on était obligé d'avoir quelque chose au milieu, et je m'en suis servi un peu avec mon architecte comme un rond-point de circulation. Et on a cette cave en verre comme ça, et puis qu'on a penché un tout petit peu pour faire un clin d'œil au quartier Feydeau à Nantes, qui est un quartier qui a subi et qui subit l'érosion, et qui au fur et à mesure s'affaisse un peu comme ça sur le côté là.
Un peu comme une tour de Babel.
Un peu
incliné.
Exactement.
Mais les bouteilles restent droites, elles. Hein.
Ah oui, elles restent droites.
Bon, et dans ce restaurant, on mange la cuisine de Ludovic Pouzelgue, une cuisine signature. Est-ce que le cube, les bétons, le bois, le verre, le métal, tout ça reflète l'idée d'une cuisine contemporaine, ou est-ce que pour vous c'est de la tradition revisitée?
Non, c'est vrai. En fait, c'est comme je dis, c'est brut. Il y a des matières, il y a de la chaleur, et dans ma cuisine c'est ce que je veux aussi, c'est le produit en avant, donc le côté brut. Alors on le travaille bien évidemment, mais pas d'artifice. Et on le met en avant, et on a cette gourmandise de cuisine. Alors forcément, je m'appuie sur la cuisine traditionnelle que j'adore et que j'ai apprise. Mais effectivement, j'essaye de qu'elle soit moderne. Mais voilà.
Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre, lui, qu'il est bon, le petit beurre, lui. Fabriqué avec du lait, du beurre de qualité. Rien de meilleur pour la santé, du lait recommandé.
Seuls des biscuits de qualité garantiront votre santé. Mangez des biscuits L.U.L.U. Lefèvre Utile. Aucune contre-marque.
Goûtez ces pains polaises aux abricots, pains d'Armor au pur miel, si appréciés des petits et des grands.
Lefèvre Utile n'utilise que des produits de qualité.
Beurre fin, œufs frais, pur sucre de canne.
Petit beurre lu.
Et approuvé du monde entier.
Oh, c'était un passage obligé, Louise André, notre réalisatrice, s'est fait plaisir en retrouvant cette vieille publicité et nous a fait plaisir également. Le petit lu, justement, c'est ce que vous offrez à vos clients. Je crois que c'est comme une bouchée d'accueil, typiquement nantaise évidemment, mais votre petit biscuit nantais est revisité, Ludovic Pouzel.
Exactement. C'est justement pour rentrer un peu dans notre univers et puis s'ancrer dans le territoire. Un petit lulu, pour nous, ce sera. Et puis c'est un sablé salé au parmesan et à l'encre de sèche. Et ensuite on change le cœur comme ça selon les saisons. Alors tantôt c'est petit pois menthe, butternut, tomate, enfin voilà.
Votre restaurant s'appelle Lulu Rouget. Alors on a compris Lulu parce qu'en plus c'est Ludovic, donc il y a un petit jeu de mots, bien sûr.
Et mon grand-père s'appelait Lucien.
Et ben voilà, donc il y a trois Lulu en fait. Rouget, c'est parce que vous aimez le Rouget?
Oui, alors je rentrerai pas dans le détail, mais oui, j'aime le Rouget. J'étais chef de partie à l'Atlantide. C'est un surnom qui m'est venu. Comment, au moment de trouver un nom pour le restaurant, je cherchais quelque chose d'accrocheur. Et puis des gens chez qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, qui étaient dans le commerce, m'ont dit mais mettez ça, c'est on s'en rappelle. On aime pas, mais on s'en rappelle. Donc j'ai mis du Rouget.
Il y a de fait un Rouget beurré pimenté avec des stries d'ail noir, ouais, comme plat incontournable de Lulu Rouget.
Ouais.
Vous étiez quand même contraint, si je puis dire, obligé de mettre un Rouget à la carte quand même.
Oui, parce que c'est un poisson que j'aime beaucoup. Puis en fait, c'est aussi un clin d'œil parce que c'est un plat qu'on a mis au point pendant mes années trois gros. Avec mon chef de l'époque, Florent Boivin. Et donc, on avait travaillé sur ce Rouget. C'était une demande de Michel Troisgros. Voilà, il est habillé comme ça, laqué d'un beurre. On dirait du cuir un peu. Voilà. Et moi, je le strie d'ail noir. Voilà, c'est assez graphique. Quand il arrive dans l'assiette, comme ça, on se demande un peu de quoi il s'agit. Et on le mange à la cuillère.
Vous disiez que c'est une cuisine moderne que vous faites. Est-ce qu'une cuisine moderne, c'est une cuisine, on l'a entendu là avec quelques notes justement, végétale? Est-ce que c'est une cuisine végétale? Est-ce que c'est une cuisine marine, puisqu'il y a aussi du poisson, des lames de Saint-Jacques bon. Mais ou est-ce que c'est une cuisine moderne parce que la façon dont vous retravaillez les produits, dont vous les cuisinez, est moderne, parce que c'est vous?
Ça dépend dans quel angle on se place. La modernité, elle peut venir d'un style de cuisine, elle peut venir d'une sauce allégée, elle peut venir de plein de choses. Ce qu'il faut faire, en tout cas moi ce que je pense et ce que je défends, c'est de s'appuyer sur des bases et techniques solides que nous ont légué un peu l'histoire hein, de la cuisine française. Et puis essayer d'aller chercher le petit truc en plus, le petit assaisonnement qui va twister, le produit qui était délaissé auparavant et qu'on récupère et qu'on essaye de remettre au goût du jour. Moi, la modernité, je la vois comme ça. Je la vois pas en essayant de mélanger des trucs ne se mélangeront jamais et vouloir choquer entre guillemets. J'ai eu tendance à le faire hein, les deux premières années pour essayer de dire regardez moi je suis là, et en fait on se rend compte que c'est pas ça en fait. Il vaut mieux aller à l'essentiel. Ce dont on se rappelle toujours dans un restaurant et une cuisine, en tout cas c'est ce que je pense, c'est le souvenir gustatif, la gourmandise. C'est ça qui revient. Dans 10, 15, 20 ans, si vous êtes capable de me rappeler quel repas vous avez fait dans tel restaurant, c'est que la mission a été remplie, c'est sûr.
Un repas ou un plat ou les deux? C'est un voyage, c'est une expérience.
Un plat peut marquer quelqu'un. Pour moi, l'expérience globale aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous sortez 7 ou 8 plats dégustation, s'il y en a un ou deux qui est un tout petit peu en dessous, si par contre toute l'expérience est bonne avec le service qui est de qualité, une carte des vins qui est de qualité, un cadre qui est de qualité, pour moi c'est réussi. C'est pas parce qu'il y aura eu deux plats un peu moins bien que ça n'ira pas.
Vous avez pas envie de choquer aujourd'hui, Ludovic Pouzel, vous nous dites, est-ce que vous avez envie d'émouvoir, de surprendre?
Ah oui. Ah oui. Alors ça,
par contre, chercher à provoquer chez le client.
Ah ouais ouais. Bah là, j'ai quelqu'un qui a mangé il y a 3 jours au restaurant qui m'a dit qu'en mangeant un plat, elle avait des frissons, elle avait les larmes aux yeux. Quand on vous dit ça, je peux vous dire
la journée est faite.
Ah ouais, peut-être même bien la semaine. donc c'est ça que, non, aujourd'hui c'est ça que je cherche. Je veux pas choquer, ça m'intéresse pas, moi.
En végétal, on peut citer le moelleux de tomate du jardin, le petit farci végétal, courgettes et autres tomates limpides.
Ouais, j'adore.
Asperges blanches, c'est en ce moment, hein.
Ah,
et cerises à la crème acidulée.
Oui.
Et la betterave. Alors, vous parliez d'acidité, vous aimez beaucoup la betterave. Ça revient beaucoup, là.
Oui, j'aime beaucoup la betterave parce que c'est un produit populaire, qui n'est pas cher. On peut l'utiliser de plein de façons, vraiment. Il y a un sucre naturel qui est dedans, par extraction, donc soit en jus, soit en purée, soit fumé, soit cru. Enfin, vraiment, il y a plein d'utilisations. Et puis cette couleur, elle est quand même magnifique. On pourra dire ce qu'on veut. Voilà. Donc je parle bien de la betterave rouge.
Hein. Attention aux doigts, hein.
Ouais.
On s'en met plein les doigts, c'est dur, dur à laver après. C'est quoi les bords friables, Ludovic Pouzelgue?
Alors, c'est une technique. On n'a rien inventé, mais en fait, je voulais faire une tarte, mais je voulais pas qu'elle soit trop lourde, et du coup, je me suis dit, on va enlever le fond. Donc en fait, on travaille sur un feuilletage. Donc là, on fait bien attention, souvent un feuilletage inversé, pour avoir beaucoup de friabilité. Et puis ensuite, on moule la pâte sur des cercles. Sur les extérieurs, en fait. Et en fait, on se retrouve juste avec un cylindre. Et ensuite, on travaille dedans avec des garnitures diverses.
Salé, hein?
Alors, ça salé, mais on sucré. Peut le faire en sucré. On peut aussi. Mais nous, là, je l'ai décliné dans le livre en salé. Et puis ensuite, quand vous cassez le cercle, donc déjà, vous avez la surprise de voir qu'il n'y a pas de fond. Normalement, si on a bien travaillé, ça croustille vraiment. Ça se mélange à la garniture. Voilà, donc là, on en a décliné 3 dans le livre.
Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? C'est le fait de cuisiner chaque jour pour des clients différents, ou même peut-être des fidèles. C'est le fait de manger. C'est quoi qui vous plaît autant dans la cuisine, dans le fait de cuisiner?
Honnêtement, c'est ce travail de produit. Moi, aujourd'hui, ça fait 25 ans que je fais ce métier, donc j'ai passé par pas mal de phases. Il y a eu toute cette phase d'apprentissage au début. Quand on est jeune, on se lève parce qu'on apprend, et ça, c'est génial, c'est la soif d'apprendre. Et puis après, faire plaisir à nos clients. Et oui, moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. C'est quand je sais que je vais aller au marché ou que j'ai un fournisseur qui va venir me poser un produit top niveau, savoir ce que je vais pouvoir en faire, et puis satisfaire les gens, faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, c'est ça. Quand j'aurai plus la passion de régaler les gens, j'arrêterai, hein, c'est sûr.
N'arrêtez pas. On a envie d'aller chez vous, aller déguster les plats que vous nous proposez chez Lulu Rouget. Nourrir Nantes, Ludovic Pouzelgue, c'est un livre qui a paru à peu près en même temps que le vôtre, oui. À l'automne 2023, signé d'une association, les Bouillonnantes. Et nous avons au téléphone l'animatrice de cette association, Laurence Goubet. Bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. C'est quoi les Bouillonnantes?
Les Bouillonnantes, en fait, on est un collectif qui réunit aujourd'hui 70 établissements sur Nantes et autour de Nantes qui s'engagent pour une alimentation durable. Et le but, c'est à la fois de fédérer tout ce réseau de restaurateurs, les accompagner dans cette démarche de transition alimentaire et puis de les valoriser et de les faire connaître auprès du grand public.
Donc ce livre rend hommage aux paysannes, aux paysans qui sont engagés autour de Nantes, dans Nantes et autour de Nantes, pour une agriculture durable, c'est ça?
Oui, tout à fait. Dans ce livre, on avait envie de partir des paysans, donc il y a 24 portées de paysans locaux. Et à partir d'un produit que chacun met en avant, on a aussi 65 recettes de chefs. Donc, c'est les chefs membres de l'association qui ont chacun proposé une recette.
À partir de produits, donc on trouve le potimarron, l'œuf, la courgette, le sarrasin, la blette, la vache nantaise, le miel, le champignon, la myrtille, le poireau, le fenouil, les lentilles et les betteraves, si chères au cœur, en tous les cas au palais et à la main de Ludovic Pouzel. Alors, les betteraves, ils viennent des jardins d'Ezia. Laurence Goubet.
Oui, c'est une ferme qui est aussi un chantier d'insertion. C'est vraiment une démarche assez intéressante. C'est une ferme qui est dans le vignoble nantais et qui fait l'effort en fait d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi pour justement repermettre leur réinsertion à travers. Donc là, c'est du maraîchage, mais ça peut se faire aussi sur d'autres pratiques et qui les accompagne aussi sur toute une partie sociale à côté. Et c'est assez inspirant en fait de se dire que par le retour à la terre, on peut avoir une sorte de retour aussi à la vie sociale.
Et en l'occurrence, la betterave, c'est-à-dire qu'elle est en recette après. La betterave est faite de trois façons, chèvre frais, tartare de fruits secs à l'estragon.
Oui, j'ai eu de la chance d'avoir, en fait, à l'image de Lulu, à Nantes, c'est vrai qu'il y a un fourmillement d'adresses avec des chefs qui ont une belle créativité et qui aiment mettre le produit au cœur de l'assiette, parce que je pense que la cuisine nantaise, c'est avant tout une cuisine de produits et des propositions qui sont toutes plus alléchantes les unes que l'autre. Et Lulu parlait de la sucrosité de la betterave. On a eu aussi une proposition de betterave déclinée en dessert. Je trouve ça assez intéressant de montrer qu'on peut la cuisiner de plein de façons différentes, tout en étant des recettes accessibles, parce que c'est vrai que parfois on se dit « Ah mince, un livre de recettes de chef, c'est impossible de les faire ». Là, les chefs, ils ont vraiment fait l'effort de réfléchir à des recettes que chacun peut refaire à la maison avec les produits qu'on a tous et les ustensiles qu'on a tous.
65 recettes. Les bénéfices de cet ouvrage reviennent aux producteurs, aux productrices ?
Alors, les bénéfices de l'ouvrage, en fait, ils nous permettent de financer l'association. C'est notre troisième livre. On avait fait deux livres avant qui s'appellent « Le goût de Nantes ». Et c'est aujourd'hui, majoritairement, ils servent à financer l'association. Après, nous, on développe des actions en parallèle, notamment avec la Banque alimentaire. On essaye d'avoir aussi ce lien côté aide alimentaire, puisque c'est essentiel aujourd'hui. Mais on a aussi un fonctionnement à l'année que le livre permet de financer.
Merci, Laurence Goubet. On le trouve partout, ce livre ?
Alors, on le trouve en ligne sur le site des Bouillonnantes et puis dans les librairies nantaises, dans les restaurants nantais et aussi dans des fermes, des caves, des épiceries. Voilà, il y a pas mal de lieux qui jouent le jeu de
nous mettre en avant. Merci beaucoup, les Bouillonnantes. Hein, c'est le nom de votre association et les photographies sont signées Paul Stéphanagui. Cuisine durable, ça vous parle, Ludovic Pouzelgue ?
Oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est un travail de tous les jours. Pour moi, c'est dans la cuisine que tout se passe. Et effectivement, on doit valoriser les épluchures, tous les produits. Donc, la durabilité, elle va dans ce sens. Mais c'est très à la mode aujourd'hui. Mais ça l'était aussi avant. Hein. C'est juste du bon sens paysan. C'est tout.
Merci beaucoup. Laurence Goubet nous disait que les recettes de son livre « Nourrir Nantes » étaient des recettes toutes accessibles chez vous. Je ne sais pas si elles le sont toutes, mais vous avez eu à cœur quand même de faire des plats qui sont proposer des recettes qui sont des recettes à faire à la maison.
Oui.
Et vous nous en offrez une d'ailleurs pour le site pour la page « Les bonnes choses » pour le site de France Culture. Et c'est la recette de beignets de maquereau avec du gouël acidulé.
Exactement.
Vous avez aussi un œuf à l'œuf. Il faudra aller ouvrir le livre parce que l'œuf à l'œuf, c'est aussi très très intéressant. J'ai envie d'aller goûter ça. Merci beaucoup à vous d'être venu.
Merci de m'avoir reçu.
Lulu Rouget, c'est 4 places Albert Camus et Un cuisinier en ville. Votre livre, c'est édité aux éditions La Martinière avec 55 recettes. Merci.
Merci à vous.
Et bon dimanche. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Siam Boutata à la préparation, avec Louise André à la réalisation et Jean-Guy Lamège aujourd'hui à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.